la possibilité de remporter 2 places pour 2 personnes pour venir tester cette activité. Vous pourrez également remporter 2 accès pour le concert de Tania Saint-Val qui aura lieu le 29 mai au Grand Carbet. Rien que ça. Et c'est parti pour les communiqués. LLKM, Lionnage pour langue créole matnique, organise dimanche 12 mai la 2e édition de la dictée Ma Pipi, réservée aux anciens lauréats de dictée créole ou ceux qui ont obtenu 16 sur 20 ou plus. À l'honneur cette année, Yvon Bissol et Paul Blamèble. Alors inscrivez-vous vite et venez tester votre niveau. Les renseignements sont à prendre au 0596 35 87 86 ou encore au 0696 31 72 11. Et c'est jusqu'au 9 mai en maille. Car il était moins de temps, mais dépêchez qu'aux autres. Le comité de quartier de Monésie et la ville de Sainte-Luce convient la population le mercredi 8 mai à la journée tradition en temps long, temps la Monzy, qui se tiendra au jardin partagé et à la maison pour tous du quartier. Cette année, le manioc sera à l'honneur sous le thème manioc en toute sauce. Au programme, 7h30, venez apprendre à planter le manioc au jardin partagé. De 10h à 13h, marché agricole et artisanal. Retrouvez de la farine de manioc, du cassave, des acras, des crêpes, gâteaux, mais également vos plantes, bijoux, produits de santé et de bien-être, ainsi que de la confiserie locale. Participez aux ateliers culinaires avec Malik Malsa du Jardin de la Santé, au programme réalisation de chips, gâteaux et pizzas, à base de manioc bien sûr. Le nombre de places étant limité, l'inscription est obligatoire, alors fais vite, inscris-toi aux autres. À 13h, Dormier Timamaï, Dormier Libépi, La Ronde, Dormier Ladja Matnik. Et ce mercredi 8 mai sera l'occasion de se replonger dans l'histoire du quartier Monésie avec des animations et des activités pour les grands et les petits. Retrouvez tout le programme sur le site internet et sur la page Facebook de la ville de Sainte-Luce ou par téléphone au 0596 62 50 01. 0596 62 50 01. Odyssey informe ses abonnés qu'en raison de difficultés d'approvisionnement de ses réservoirs dues à une baisse de la ressource, la distribution en eau sera interrompue du dimanche 5 mai 2024 à partir de 20h au lundi 6 mai 2024 jusqu'à 20h dans les quartiers suivants de Chelcher. Réservoir Almont, Terreville, Grand Village, Enclos, réservoir Norlet, Anscola et Fontlaillé. Odyssey a mis à disposition des mairies, des citernes et des bouteilles qui seront distribuées selon leur organisation. Alors Odyssey prie ses abonnés de bien vouloir l'excuser pour ses restrictions indépendantes de sa volonté. Pensez faire réserve d'eau, mon maïen. Odyssey informe ses abonnés qu'en raison de difficultés d'approvisionnement de ses réservoirs dues à une baisse de la ressource, la distribution en eau sera interrompue jusqu'au dimanche 5 mai 2024 à 20h dans les quartiers suivants de Chelcher. Le réservoir de Plateau-Roi concerne Grand Paradis, Plateau-Roi, Lotissement Félicité, Sainte-Catherine, Plateau-Fofo et Cluny. Le réservoir de Plateau-Fofo, eh bien Plateau-Fofo, Batelière, Anse-Gouraud, Saint-Georges, Ozanam et Anse-Gouraud. Odyssey a mis à disposition des mairies, des citernes et des bouteilles qui seront distribuées selon leur organisation. Et Odyssey prie ses abonnés de bien vouloir l'excuser pour ses restrictions indépendantes de sa volonté. Odyssey informe ses abonnés qu'en raison des difficultés d'approvisionnement de ses réservoirs dues à une baisse de la ressource, la distribution en eau sera interrompue du dimanche 5 mai 2024 à partir de 20h jusqu'au lundi 6 mai 2024 jusqu'à 20h dans les quartiers suivants de Fort-de-France. Route des Religieuses, Sainte-Thérèse, Vieux Habitants, Haut-du-Port, Religieuses, Sainte-Thérèse. Odyssey a mis à disposition des mairies, des citernes et des bouteilles qui seront distribuées selon leur organisation. Et Odyssey prie ses abonnés de bien vouloir l'excuser pour ses restrictions indépendantes de sa volonté. Mama et Sisot Nikaï, des pignanti goutte la pique à tomber, songez, mettez réserve pour Ricky, Loa, ou encore faites des réserves d'eau tant que l'eau coule au robinet et puis adoptons un mouvement de solidarité si on a des connaissances qui n'ont pas d'eau. Le centre médical de réadaptation La Valériane de Trinité vous informe de l'ouverture de sa nouvelle campagne de prise en charge dédiée et ludique de lutte contre l'obésité à destination des enfants, des adolescents de plus de 8 ans. Nous serons à vos côtés pendant 6 mois afin de vous accompagner en famille. Alors n'hésitez pas à les contacter pour plus d'informations. Leur équipe de soins dynamiques vous attend. L'inscription se passe jusqu'au 30 mai et le contact est au 0596 58 58 23, ou vous pouvez également envoyer un email à valeriane.reservationhdj@fondationpartageetvie.org. dans le cadre de la fête patronale 2024 de la ville de Saint-Joseph. L'information à l'attention des riverains jusqu'au dimanche 5 mai 2024. La circulation est interdite de la RD 15 bis du rond-point Cartésia jusqu'au lotissement du stade de 15h à minuit, sauf pour les riverains munis de justificatifs de domicile. Habitants de Lompré, de la RD 15 bis, cité Gouraud et cité du stade, pensez à vous déplacer avec vos justificatifs de domicile, Pouillot-Pabarésote. Information à l'attention des automobilistes cette fois. Le dimanche 5 mai 2024, un défilé à pied est organisé dans les rues du bourg de Saint-Joseph comme suit. Rue Eugène Maillard, Croix-Mission, RN4 en direction de la place des Fêtes et du Hall des Sports, la RDI 5 bis, place des Fêtes, Hall des Sports. La circulation sera momentanément interrompue aux différents points de passage et placée sous le contrôle de la police municipale durant le défilé de 9h30 à 11h. Un défilé que vous pouvez également regarder. Le stationnement sera interdit à la rue Ernest Desproges devant le Crédit Agricole et les riverains de la rue Haussmann du Quenep devront emprunter la voie en sens contraire de la circulation. Maire de la ville du Lorrain vous informe les utilisateurs des réseaux sociaux Facebook, Messenger et Instagram de l'existence de nombreux comptes usurpant son identité. À travers des demandes d'ajout d'amis, ces personnes mal intentionnées tentent de tromper les internautes et de vous escroquer financièrement. Alors faites attention, le maire met en garde la population et invite les internautes à n'accorder aucune crédibilité à ces profils qui utilisent son identité à des fins malveillantes. Adoptez les bons réflexes en détectant immédiatement la tentative d'escroquerie. Alors ne jamais transmettre d'informations bancaires par courrier électronique. Ne jamais répondre à un courrier électronique vous demandant des informations personnelles. Et vérifiez l'URL dans la barre d'adresse du navigateur. Vérifiez toute l'URL, je tiens à le préciser, parce qu'il y a des petits malins quand même. Pour rappel, le compte officiel de Monsieur Justin Panfil est Justin Panfil 3. Et l'URL https://www.facebook.com/justin.panfil.3 Panfil, P-A-M-P-H-I-L-E. Renseignements au 0596 53 44 22. Les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant qui souhaitent assister ou participer à la Silver Parade organisée à Rivière-Salée le samedi 11 mai de 15h à 19h sont invitées à se faire connaître au plus tard le lundi 6 mai, donc à savoir jusqu'à demain, mon maïen. Il vous faut contacter le 0696 24 11 73. Le port du costume traditionnel sera recommandé, bien entendu. Dans le cadre de la Silver Parade organisée le samedi 11 mai prochain, la ville de Rivière-Salée informe la population de la fermeture de la ville à partir de 13h30. Un dispositif de circulation sera mis en place pour les riverains. Le respect des consignes et la bienveillance de tous participeront au succès de cette manifestation. La municipalité vous informe de votre compréhension. Vous remercie de votre compréhension. Contrôle technique Lompré vous informe que le propriétaire du véhicule peut effectuer de façon spontanée un contrôle volontaire, partiel ou total. Vous avez un doute sur l'efficacité du freinage ou encore des amortisseurs, vous êtes alerté par un bruit anormal de votre véhicule, alors cela vous intéresse. Le contrôle est validé uniquement par un procès verbal de contrôle, alors il ne génère en aucun cas une contre-visite. Contrôle technique Lompré est situé au quartier Lompré, au Lamentin, et est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à midi. Le numéro de téléphone 0596 77 59 32. Et toute l'équipe se fera un véritable plaisir de vous recevoir. Le regroupement athlétique du Nord vous invite à la 9e édition du grand meeting du rang et au colloque. Au programme, le 7 mai 2024, à 10h, il y aura un colloque. Le thème, l'alimentation chez les sportifs de haut niveau. Est-ce que de la malbouffe favorise les performances? Et à la Maison de la Culture de Lorrain, le 8 mai 2024, à 15h30, 9e édition du rang. Compétition sportive internationale, complexe sportif Michel Talmancy. L'entrée sera payante. Elle est gratuite pour tous les licenciés FFA sur présentation de leur licence plus leur pièce d'identité. Alors venez applaudir et encourager les athlètes de la Martinique et leurs invités internationaux. Renseignements au 0596 53 44 22 ou encore vous pouvez joindre Michel Johan au 0696 23 39 19. En préambule de la Silver Parade du samedi 11 mai prochain, la ville de Rivière-Salée vous invite aux projections des films documentaires suivants. Mardi 7 mai, Africa Mia, tribulation de musiciens se rendant à Cuba pour l'enregistrement de leur album. Vendredi 10 mai, Un jour tu vieilliras, film de fiction joué par des seniors amateurs en vue de sensibiliser à la question des personnes âgées et isolées. Et oui, mesdames et messieurs, un jour ce sera nous, les personnes âgées, alors soyons sensibilisés à cette question. Et toutes les projections sont à 18h30 à la Maison des Seniors, l'entrée sera libre. Voilà pour les communiqués à Montmaille, et si vous aussi vous avez envie de passer un petit communiqué sur RCI, eh bien nous sommes joignables au 0596 63 98 70 à partir de demain, bien entendu, ou encore vous pouvez nous envoyer un email à secrétariat972@rcigroupe100e.fr. Et on continue ensemble. Et comme vous le savez peut-être déjà sans doute, les élections européennes ont lieu dans 5 semaines et on retrouve la deuxième partie du grand jury justement au sujet des élections européennes.
Olivier Bost, le grand jury RTL Le Figaro Paris Première avec M6 et LCP, spéciale élections européennes.
Troisième partie de ce premier grand débat des élections européennes. Nous allons parler des frontières de l'Europe. Quelle solution pour l'immigration avec, à mes côtés, Dim Djarassé du Figaro.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour. Pour commencer, deux chiffres à avoir en tête sur ce débat pour l'année 2023. 380 000 entrées illégales sur le territoire européen et 2500 personnes mortes ou disparues en Méditerranée. Face à cette crise, l'Europe tente de s'organiser avec le pacte asile et migration qui prévoit de durcir le contrôle aux frontières, mais aussi de mieux répartir les demandeurs d'asile entre les pays européens. On commence avec vous, Marion Maréchal. Pourquoi vous êtes contre ce pacte asile-migration qui contient pourtant des mesures restrictives vis-à-vis des demandeurs d'asile ?
Alors, je vais vous répondre, mais avant cela, j'aimerais noter quand même qu'il y a un certain nombre de personnes sur ce plateau qui sont pour le principe de précaution en matière environnementale. Eh bien, moi, voyez-vous, je suis pour le principe de précaution migratoire. Et je constate que la politique de la bonne conscience de gauche, du faux humanisme, eh bien, il aboutit à des conséquences dramatiques. Et c'est par exemple la mort du petit Matisse il y a quelques jours qui a été tué par un réfugié afghan. C'est par exemple 77% des interpellés pour viol à Paris qui sont de nationalité étrangère. C'est par exemple l'alerte récente de la DGSI qui nous enjoint à faire attention car il pourrait de nouveau y avoir des infiltrations terroristes parmi les migrants. Je suis étonnée que le Bataclan ne nous ait pas suffi pour prendre conscience de cette menace. Et donc, dans la politique que je défends au niveau européen, il y a la volonté déjà de dissuader, de faire venir, d'empêcher ces venus et de renvoyer de façon très concrète lorsque nous sommes face à des cas de clandestinité. Et pour ce là. Je défends le No Way australien, c'est-à-dire des campagnes de publicité dissuasive dans les pays de départ. Je défends la fin du financement des ONG pro-migrants qui sont aujourd'hui les complices de ces passeurs. Je défends le blocus naval en Méditerranée qui doit bloquer, intercepter et renvoyer ces bateaux. Je défends le financement et l'installation de centres d'accueil à l'extérieur des frontières européennes pour l'étude des dossiers, mais aussi la fin de la directive sur le regroupement familial, la réforme de Schengen ou, et plus simplement, le fait qu'aujourd'hui les 70 milliards d'aide au développement qui sont versées par l'Europe à des pays extra-européens soient conditionnées au fait que ces pays acceptent de reprendre leur clandestin et accordent les laissez-passer consulaires.
Manon Aubry, pour la France Insoumise, vous êtes peut-être celle qui a la position la plus diamétralement opposée à Marion Maréchal sur cette question de l'immigration, puisque vous défendez finalement une humanité et un accueil large au sein des frontières de l'Europe. Est-ce que ça veut dire qu'il faut accueillir tout le monde, justement ?
Non, d'abord, quel est le point de départ ? C'est la politique migratoire européenne qui est inhumaine et inefficace. Inhumaine parce qu'elle a transformé notre mer Méditerranée en un tombeau, en un cimetière à ciel ouvert où il est mort plus de 30 000 exilés ces 20 dernières années, où on va enfermer des enfants. Voilà, aujourd'hui, la politique migratoire européenne. Renvoyer des migrants vers, par exemple, des pays comme la Libye qui sont considérés comme sûrs où on torture les exilés. Et puis, je vais vous dire, elle est même inefficace, cette politique migratoire, parce qu'on laisse seuls les États du sud de l'Europe gérer. Il n'y a pas de mécanisme de répartition obligatoire dans le pacte asile et immigration. Pire encore, ils pourront financer des murs aux frontières. Eh bien, voyez-moi, contre cette politique des barbelés, oui, je prends la solidarité, la dignité. J'ai sur ma liste le député écologiste Damien Carême, qui est l'ancien maire de Grande-Synthe, qui a fait la démonstration qu'il était possible d'avoir un accueil digne des migrants et des exilés, et d'avoir des voies légales sur même l'extrême droite. Vous savez, Giorgia Meloni en Italie, elle a régularisé 450 000 migrants parce qu'ils en avaient besoin. Et je vous parlais de ma liste. Sur la liste de M. Bardella, il y a M. Légéry, qui est l'ancien président de Frontex, qui est l'agence de garde-côtes aux frontières, qui est plutôt une agence de la mort aux frontières de l'Union européenne. Sous la présidence, il a 25 000 exilés sont morts en mer Méditerranée. Il a dû démissionner à cause d'une enquête de l'agence anticorruption de l'OLAF. Il est poursuivi pour complicité, pour crime contre l'humanité.
Il a protégé nos frontières,
Bardella,
madame.
Monsieur Bardella, vous avez sur votre liste des gens qui ont du sang sur les mains, et à votre place, j'aurais honte.
Je n'ai pas les porte-parole du Hamas.
Manon Aubry, pour la France Insoumise, vous
devriez avoir honte parce que c'est vous et cette politique
Jordan Bardella répondre à ces accusations.
C'est absolument pas mon laxisme.
C'est votre promesse d'Eldorado.
C'est l'agence européenne de Frontex qui fait des refoulements qui sont illégaux au regard du droit international.
Manon Aubry, laissez s'il vous plaît répondre à Jordan Bardella. Jordan Bardella, répondre.
Au péril de leur vie à traverser la Méditerranée, c'est vous qui êtes responsable.
Jordan Bardella, laissez-le répondre s'il vous plaît.
Notamment commercial illégal.
Merci à Manon Aubry de démontrer que la fermeté en matière d'immigration est présente sur la liste du Rassemblement National, et je suis très heureux que un grand serviteur de l'État comme Fabrice Leggeri, qui a protégé les frontières européennes, qui a été débarqué par la Commission européenne pour cela, et qui est aujourd'hui, vous avez raison, poursuivi par des associations pro-migrants d'extrême gauche, des ONG,
et par l'agence
d'avoir protégé nos frontières. Alors je vais vous dire, je pense que l'immigration est peut-être le plus grand défi qui se pose aujourd'hui à l'Europe, qui va bouleverser non pas seulement nos comptes publics, notre sécurité, mais aussi notre identité. Et ça pose au fond une question existentielle. Qui sommes-nous et qui voulons-nous rester dans le siècle qui vient ? La logique de la gauche et de ce pacte migratoire, c'est de répartir les migrants dans les communes, dans les villes et dans les villages de France. La mienne, c'est de faire repartir des clandestins qui n'ont rien à faire sur notre sol et qui viennent précisément sur le sol français, parce que notre pays est devenu un guichet social pour l'immigration du monde entier. Par conséquent, je prône aujourd'hui un tournant ferme, dissuasif en matière d'immigratoire, avec premièrement une double frontière. La possibilité de refouler les embarcations qui arrivent sur les côtes européennes par Frontex au large, aux portes de l'Union européenne. Et deuxièmement, la restriction de l'espace Schengen aux seuls ressortissants de l'Union européenne. Deuxièmement, je souhaite que les demandes d'asile soient traitées dans les ambassades et consulats des pays de départ. Aujourd'hui, l'asile est devenu une immigration de fait accompli. On accueille tout le monde rentre, plus personne ne sort. Et troisièmement, il faut faire en sorte que la France cesse d'être un guichet social pour l'immigration du monde entier. Et puis juste, je vous pose une question, Madame Meillet, parce qu'elle est fondamentale et vous ne m'avez pas répondu lors de notre débat mercredi. Est-ce qu'il y a oui ou non trop d'immigration en France ?
Alors, réponse de Valérie Ayé pour Renaissance.
Monsieur Bardella, vous le savez autant que moi, l'enjeu c'est la gestion de l'immigration irrégulière. L'enjeu c'est la gestion de la migration irrégulière. Il y a ce qui relève de la migration économique. Je vous rappelle que vous avez soutenu la loi immigration
ou non,
en France.
Y a-t-il trop d'immigration en France ?
Je vous rappelle que vous avez soutenu la loi immigration en France qui a régularisé un certain nombre de personnes.
Sur
les métiers en tension. La question c'est comment on s'assure qu'il n'y ait plus de jungle de Calais ? Comment on s'assure qu'il n'y ait plus de problème d'immigration irrégulière s'agissant dans les quartiers nord de Marseille, par exemple. Comment on gère des flux migratoires irréguliers avec le pacte asile et migration que je suis la seule autour de cette table à avoir
voté. En répartissant les migrants dans les communes françaises.
On enregistre aux frontières. C'est la première fois que ça se passe, que ça se fait. Ça ne se faisait pas jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on va prendre les empreintes, l'identité des personnes qui arrivent, et ensuite on regarde si elles peuvent ou pas accéder aux territoires européens. Parce que oui, moi j'assume le droit d'asile et je suis fière de ce droit d'asile. Et si les personnes peuvent bénéficier du droit d'asile, on les accueille sur le territoire européen. Si elles ne le peuvent pas,
l'immigration en France aujourd'hui, c'est ça comme question. Tous les Français ont le droit d'avoir l'avis des macronistes dans cette élection.
Moi, je suis ravie d'entendre que désormais vous soutenez Frontex, que vous n'avez jamais soutenu. À chaque fois qu'on a demandé des renforts pour Frontex,
ou non, madame,
vous ne les avez pas.
Noël Poisson, elle est très simple, cette question.
Deuxièmement, monsieur Bardella, vous avez essayé de m'expliquer comment fonctionnait votre double frontière. J'ai vraiment pas compris.
Je pense que les Français...
Donc comment vous vous assurez que les migrants qui seraient en situation irrégulière, puisque vous proposez rien par ailleurs, que ces fameux migrants, ils ne passent pas la frontière entre l'Allemagne et la France ? Comment vous vous assurez qu'ils ne passent pas la frontière entre l'Italie et la France avec votre fameuse double frontière ? Vous mettez un mur ?
Madame, vous mettez des miradors, s'appelle des contrôles à l'aéroport, madame.
Vous contrôlez au faciès,
madame,
non mais il n'y a pas d'aéroport.
Vous savez, quand vous êtes à l'aéroport,
il y a une file pour les
ressortissants Schengen et il y a une file pour les ressortissants extra-Schengen.
C'est merveilleux, c'est ce qu'on fait déjà, monsieur Bardella.
Non, madame, parce qu'aujourd'hui... Non, madame, vous connaissez mal ce dossier, manifestement.
Est-ce qu'il y a un aéroport quand vous,
madame,
pour passer de l'Italie à la France, à la frontière?
Oui, il y a un aéroport pour passer de l'Italie à la France, il y en a même plusieurs.
La frontière terrestre, comment vous la sécurisez?
Je vais vous répondre. Le fait d'obtenir un titre de séjour en Italie, en Suède ou en Allemagne ne devrait pas donner un droit à circuler dans tous les États de l'Union européenne. Dans le drame d'Annecy, dans l'attentat terroriste islamiste d'Annecy que nous avions connu, le type en question qui a été mis en cause et qui a été interpellé provenait d'un titre de séjour qu'il avait pu obtenir en Suède, ce qui lui avait donné un droit à circuler dans tous les pays de l'Union européenne. Votre Union européenne, madame, sans frontières, sans
Monsieur
protection,
Bardella,
qui prône l'accueil illimité... est un désastre.
Monsieur
non
Bardella,
seulement elle ne fonctionne pas,
mais elle crée
les conditions d'une submersion migratoire sur le sol européen. Je vous
Monsieur
pose une
Bardella,
question simple,
si vous
madame,
aviez voulu véritablement
oui
savoir
ou non, trop si d'immigration
si,
aujourd'hui
si vous
en
aviez,
France.
Vous savez que c'est pas le sujet. La question c'est comment
c'est
on gère
sujet.
Vous savez que la question c'est
sujet,
comment justement. On gère l'immigration irrégulière et le pacte asile-immigration, il permet de savoir on prend les empreintes, on sait exactement où sont
et
les migrants.
Et vous répartissez madame. Alors vous répartissez dans nos communes. Les Français ils veulent pas de cela madame. Ce pacte juste pour que les Français comprennent.
Oui, rapidement et ensuite on fait parler Raphaël Glucksmann.
Le pacte,
juste ce pacte qui a été adopté par les
rapidement.
Ça prévoit la répartition ou la punition financière. Soit on accepte les migrants dans nos communes, dans nos villages, soit les États membres sont condamnés à payer des amendes financières de 20 000 euros
Monsieur
par migrant.
Bardella,
mais
vous
vous rendez compte, madame,
de
cette immigration?
C'est que la France accueille un nombre important de demandeurs d'asile. Demain, avec le pacte que nous avons voté, votre ami Viktor Orban, il en accueillera.
Moi, je souhaite, madame, parce qu'il ne veut pas l'appliquer. Il n'a pas envie que la Hongrie devienne la porte de la Chapelle ou la Seine-Saint-Denis. Il a raison, me semble-t-il.
Les Danois, les Slovaques accueillent aussi des demandeurs d'asile.
Valérie
aussi libérer
et Jordan Bardella. Merci. Raphaël Glucksmann pour le Parti Socialiste et Place Publique.
Monsieur Bardella, vos slogans d'estrade sur l'immigration zéro, c'est une vidéo TikTok. Ça ne correspond pas à la réalité des économies européennes, à la réalité des sociétés européennes. Votre alliée, Madame Maréchal, Madame Meloni, eh bien, elle a fait campagne en prônant l'immigration zéro, en expliquant qu'elle allait faire un blocus naval. Et une fois arrivée au pouvoir, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a invité 450 000 travailleurs étrangers.
Et donc,
il y a une hypocrisie. Parce que vous êtes quelqu'un d'honnête. Vous n'avez pas l'immigration honteuse. Madame Ayé, elle a l'immigration honteuse. Elle veut accueillir, mais pas le dire. Vous le dites, et c'est tout à votre honneur.
Ce n'est pas...
Raphaël Glucksmann.
Donc,
mais vous voulez un accueil
et j'aime cette franchise, monsieur Glucksmann.
Ce que je veux, c'est la fin de l'hypocrisie. Et vous êtes des tartuffes sur la question migratoire.
Sans limite.
Pas
sans
du
condition.
Tout.
Si,
vous voyez, madame Maréchal, pas du tout.
Alors expliquez-moi.
Pas du tout.
Ah bon? Et donc
pas
la personne qui a le clandestinement.
Ce
non,
que je dis, c'est qu'on ne peut pas avoir un débat sur la question migratoire en omettant
donc,
totalement le fait. Je vous
très
ai laissé parler.
Très concrètement.
En omettant le fait que nous avons besoin d'une voie de migration légale.
Concrètement, la personne qui a clandestinement, qu'est-ce qu'on en fait?
Et que donc, il faut mettre fin à l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, elle crée le chaos. Le chaos de politiques migratoires qui ne sont pas coordonnées, ce qu'on appelle le système de Dublin, et elle crée l'indignité pour des êtres humains. Et donc mettre fin à cette hypocrisie, accepter qu'il y ait des besoins dans nos sociétés et que donc on crée des voies de migration légales et sécurisées, eh bien ça nous permettra de faire un accord avec les pays de provenance où on délivre des visas et en échange ils délivrent ce qui n'existe pas aujourd'hui, c'est-à-dire les laissez-passer
donc,
consulaires.
Raphaël Glucksmann,
et que donc
vous accordez
les gens qui n'ont pas
non, qui souhaitent venir
non, parce
sans
que justement
limite.
Les gens qui n'ont pas droit à l'asile au bout d'un processus qui est respecté en fonction des obligations internationales et qui n'ont pas de titre de séjour, eh bien devront repartir chez eux et ça sera rendu possible parce qu'ils auront des laissez-passer consulaires, parce que nous aurons mis fin à cette hypocrisie
qui Jordan Bardella,
oui,
s'il vous plaît.
Justement, ça permettra
François-Xavier Bellamy
un accord.
Ne
et
pas
donc, nous avons une politique
sujet.
Qui
Raphaël
est profondément Luxman. Humaniste et réaliste. Ça respecte le droit
position.
Et... Oui, mais sauf que c'est pas du tout ce qui est fait.
Vous avez largement le temps
quand vous avez des gens qui impressionne les foules avec des slogans d'estrade sur l'immigration zéro, eh bien, ce qui se produit, c'est que les dirigeants politiques n'osent plus faire ce que demande la réalité.
Et monsieur Glucksmann, c'est très clair. Au moins, vous êtes pour l'accueil inconditionnel des réfugiés,
je viens d'expliquer l'exact inverse.
Avec les conditions qu'on a vues et avec la mort.
Raphaël Glucksmann, on a compris votre position. Laissez, s'il vous plaît, François-Xavier Bellamy. Marion Maréchal, laissez François-Xavier Bellamy s'exprimer sur le sujet.
Bon, je voudrais commencer par dire une chose très simple que Valérie Ayer n'a pas réussi à dire, mais oui, évidemment, il y a beaucoup trop d'immigration en France aujourd'hui. Et le sujet, d'ailleurs, n'est pas seulement l'immigration irrégulière, c'est l'immigration légale qui atteint des volumes qui n'ont jamais été aussi importants qu'au cours des dernières années.
Il y a trois sources d'immigration, si vous le permettez, l'immigration régulière, qu'on régule nous-mêmes. Vous avez
qui est beaucoup trop importante. Madame, on vous demande juste, est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigration en France ou non? On ne vous demande pas.
Jordan Bardella, s'il vous plaît. Valérie Ayer,
ça suffit les fantasmes. On a trois sources d'immigration. L'immigration, les migrants, les demandeurs d'asile.
Vous demandez un cours, madame. Y a-t-il oui ou non trop d'immigration en France? Enfin, nous, on vous a tous répondu, je veux dire, c'est clair.
Et le fait d'attiser les peurs. Les demandeurs d'asile, quand ils, enfin, les femmes yézidis, les Syriens, bien sûr qu'ils ont droit à l'asile. C'est l'honneur de la France et de l'Europe de les accueillir. L'immigration irrégulière qu'on traite, entre guillemets, avec le pacte asile-immigration, et l'immigration régulière, c'est encore un autre sujet, qui est la régularisation des métiers en tension, comme l'a fait votre allié Giorgia Meloni en Italie, par exemple.
Valérie Ayer. Laissez maintenant François-Xavier Bellamy reprendre ses propos.
Merci beaucoup. Donc, je continue. Il y a aujourd'hui beaucoup trop d'immigration en France. Et l'un des très grands sujets, le grand sujet sans doute pour l'avenir de l'Europe, c'est la question de savoir si nous allons réussir à sortir de l'impuissance. Parce que c'est l'impuissance de l'Europe à maîtriser ses frontières qui cause aujourd'hui les drames que vous déplorez, Manon Aubry. En réalité, si des gens meurent en Méditerranée, c'est pas parce que l'Europe a des frontières, mais c'est parce qu'elle en a plus. Et que tout le monde sait que si vous arrivez à mettre le pied illégalement sur le sol européen, vous avez toutes les chances d'y rester pour toujours. Et, oui. Et ça, c'est
on
grâce à qui?
On ne monte pas dans un radeau de survie comme dans un bateau de croisière, monsieur Bellamy, contrairement à ce que vous pensez.
Grâce aux politiques que la gauche a défendues. Et là encore, je le redis, c'est grâce exactement à la volonté d'Emmanuel Macron et de sa majorité au Parlement européen. Vous parlez de maîtrise des frontières, mais au Parlement européen, dans la dernière session plénière, c'était il y a simplement 15 jours, vous avez voté en faveur d'un rapport socialiste qui va rendre encore plus compliqué le contrôle par nos États de leurs propres frontières nationales. Évidemment, il faut une
monsieur
coopération
Bellamy,
européenne sur ce sujet.
Pourquoi le groupe PPE a voté le pacte asile immigration?
Le groupe PPE.
Visiblement, le pacte n'est pas à la hauteur. Pourquoi le PPE l'a voté? Votre groupe politique.
Tout le groupe PPE pense que le pacte asile immigration n'est pas à la hauteur des enjeux.
Il l'a négocié, il l'a voté, donc il faut savoir.
Le PPE s'est battu, et c'est là la différence sans doute entre nous et monsieur Bardella ou madame Maréchal.
Vous avez besoin de donner des gages à Ursula, pas moi. C'est effectivement une différence.
Pas du tout. Nous avons été au combat tous les jours, matin, midi et soir, pour empêcher le projet de répartition obligatoire des migrants voulu par Emmanuel Macron et qu'il défendait depuis longtemps. Et ce projet de répartition obligatoire, il a sauté, heureusement. Il est, j'ai voté contre également, mais il est permis dans le pacte tel qu'il est proposé de ne pas accepter des migrants illégaux que l'Europe voulait imposer, c'était le projet initial, mais de contribuer au soutien aux pays de première entrée, y compris par des mesures de solidarité concrètes comme l'envoi de forces armées, de gendarmes, de policiers, d'interprètes, d'humanitaires. Donc c'est comme ça que nous avons réussi à éviter ce projet de répartition obligatoire. Parce que vous avez,
soyez plus clair.
Parce que vous avez vidé de sa substance. Parce que vous avez vidé de sa substance les éléments qui pouvaient aller dans le bon sens. Il y avait notamment la procédure d'asile examinée aux frontières extérieures de l'Europe. Et c'est vous, par les compromis que vous avez passés avec la gauche, qui avez empêché que ce soit effectif. Bien sûr que non. Parce qu'en réalité, il faudra que les États justifient de du risque potentiel de fuite d'une personne qui arriverait illégalement à l'entrée sur le sol européen pour pouvoir les retenir dans des camps, dans des centres
fermés. Si ce texte n'est pas assez bon pour vous, pourquoi il l'était pour vos collègues du groupe PPE dans lequel vous siégez?
Il n'est bon pour aucun collègue du groupe PPE. Le sujet, c'était est-ce qu'on sort de la situation actuelle en faisant un pas en avant ou bien est-ce qu'on considère qu'il faut tout remettre sur le métier? Et on a aujourd'hui une grande partie
du PPE. Vous préférez le statu quo comme tout le monde ici autour de la table.
Nous préférons que dans le mandat qui viendra, alors, en ayant plus d'élus qui, au Parlement européen, aient les idées claires sur la question et plus d'élus qui soient capables de dire clairement que oui, il faut arrêter avec cette immigration dérégulée qui détruit l'équilibre de notre continent et de nos pays, que nous puissions faire en sorte de reconstruire la possibilité de maîtriser nos frontières.
Merci François-Xavier.
Parce que c'est à cette condition-là et à cette condition-là seulement que nous préserverons l'unité de nos pays.
Merci François-Xavier Bellamy. Une question pour Marie Toussaint des Écologistes. Vous avez voté contre le pacte asile-migration au nom de valeurs d'accueil et d'humanité. Expliquez-nous cette position. Est-ce que l'Europe a les capacités d'accueillir tous les migrants qui se présentent à ses portes?
Mais vous savez, moi j'en ai marre. J'en ai marre de cette espèce de surenchère entre les croque-morts de la Méditerranée qui ont fini par tétaniser et terroriser tout le monde. Ça ne se base sur rien, ce sont des mensonges. Et la preuve, c'est que les alliés des personnes à ma droite, mais aussi en face et de M. Bellamy, bon, quand ils ont été aux manettes de leur pays, Giorgia Meloni, c'est 400 000 migrants qui arrivent, Viktor Orban, 500 000 sur une population de 10 millions. Vous vous rendez compte à quel point il laisse en réalité rentrer les migrantes et les migrants. Pourquoi ? Ben parce que au fond, si on est un peu sérieux, eh bien on en a besoin. Et donc tout ce qu'il vous raconte, ce sont des mensonges
qui sont achetés à la poubelle.
Et monsieur Bardella, il vous dit le plus grand défi.
Donc c'est pas l'humanisme en fait, c'est des intérêts économiques,
c'est l'immigration. Eh bien non, je le redis,
c'est les entreprises.
Le plus grand défi, c'est le dérèglement climatique, c'est la destruction de la planète. Et vous savez, mais exactement. En fait, on a une politique. L'Union européenne mène une politique.
Donc on accueille la moitié de l'humanité.
Extrêmement libérale depuis des décennies, qui vise à quoi ? Qui vise à piller les ressources halieutiques en poissons.
En matière combien ? C'est quoi la limite ?
Marie Toussaint, en matière
des pays du Sud aujourd'hui. Mais écoutez-moi, parce que aujourd'hui, en Asie du Sud-Est, on parle de confinement climatique, parce qu'il fait tellement chaud que les enfants ne peuvent plus aller à l'école, que les adultes ne peuvent plus aller au travail. Ces derniers jours,
hier
ça a été une centaine de personnes qui ont trouvé la mort au Brésil à cause des inondations liées au dérèglement climatique.
Donc on accueille tout le Brésil ?
Plus de 400 entre le Kenya et la Tanzanie.
Du coup, on accueille tout le Kenya ?
Et donc, à un moment, il faut que l'Union européenne elle soit en capacité de permettre aux gens qui ne veulent pas partir de chez eux.
Vous pouvez aussi répondre aux interpellations. Vous voulez donc...
Il faut accueillir combien ?
Il n'y a aucune... Attendez, excusez-moi.
On a besoin de mener une politique de co-développement, de permettre aux gens de pouvoir rester chez eux, et ce n'est pas ce que fait l'Union européenne aujourd'hui.
Mais ça, on est d'accord,
Madame Toussaint,
c'est le plus
grand défi des climatiques, alors que eux sont en réalité
Toussaint, pour bien comprendre votre position.
Toute l'Afrique veut venir, on accueille toute l'Afrique.
Mais bien sûr, on a besoin de solidarité, bien sûr, on a besoin d'humanité, bien sûr, on a besoin d'efficacité. La solidarité entre les États membres, une réelle solidarité.
Après, quelle régulation et quelle limite
obligatoire
posez-vous à l'immigration ?
Deux, peut-être que si on avait une politique migratoire européenne, eh bien, ce qu'il disait aurait un sens. Aujourd'hui, les politiques migratoires, elles sont nationales. Et donc, oui, on peut assumer d'avoir une politique migratoire européenne qui travaille aussi sur l'intégration.
Et vous savez,
quand les réfugiés ukrainiens sont venus
pas
sur le territoire européen, ils ont eu un logement, ils ont eu un travail, et ça a fonctionné. Et donc, solidarité, deux, humanité avec une politique d'intégration, et trois, efficacité, parce que je suis désolée, mais quand on est responsable, eh bien, on ne considère pas que mettre des murs et des barbelés aux frontières, laisser crever les gens en Méditerranée, ça les empêche de venir.
Manon Aubry,
les gens sont dans une telle situation de
question à poser à Manon Aubry.
Je pense
que Manon Aubry a la réponse.
Je l'ai entendu, monsieur Bardella.
Juste pour qu'on soit clair, pour tout le monde dans la question, si demain il faut accueillir toute l'Afrique, vous accueillez toute l'Afrique.
Vous êtes beaucoup exprimé. Monsieur Bardella, j'ai une question assez simple. Est-ce que vous étiez pour ou contre accueillir les 110 000 réfugiés ukrainiens que la France a accueillis qui ont fui la guerre en Ukraine ?
J'y étais favorable.
Vous y étiez favorable.
Parce que je me sens culturellement plus proche des conflits qui arrivent aux portes de l'Europe que de ce qui se passe en Afghanistan.
Manon Aubry, pardon. Manon Aubry, pour répondre à l'interprétation.
Vous voulez.
Attendez, Madame Toussaint,
elles peuvent rester à mourir en Afghanistan.
Vous parlez ensemble, on ne vous entend plus.
J'avais la parole, monsieur Bardella.
S'il vous plaît, on ne vous entend plus là. On ne vous entend plus. Manon Aubry.
On voit bien le paradoxe dans vos paroles. Si ce sont des réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre et qui sont de religion chrétienne ou blanc, ça vous convient. Par contre, si ce sont, par exemple, des femmes qui fuient l'islamisme que vous dénoncez
que vous importez en France
d'Afghanistan,
mais vous importez l'islamisme en France, madame.
Mais donc vous n'êtes pas pour accueillir.
Je comprends bien
ceux
l'intérêt pour la France insoumise d'importer des islamistes du Hamas en France pour faire des
vous
voies élections.
Mais... Donc vous voyez le paradoxe. Vous voulez lutter contre l'islamisme, mais vous n'êtes pas prêt à accueillir ceux qui fuient.
Et vous l'importez.
Vous voyez à quel point votre politique n'a aucun sens.
C'est pas vrai,
et votre
madame.
Question n'a aucun sens.
C'est pas vrai,
et vous
madame.
N'avez aucune humanité. Tout le monde aura bien compris aujourd'hui que vous êtes prêt à accueillir, si ce sont des Ukrainiens, mais des gens qui fuient la guerre en Afghanistan ou dans d'autres pays.
L'Afghanistan est un pays en guerre, madame. Première nouvelle.
Alors, le régime politique afghan, vous savez ce que c'est, notamment pour les femmes.
Mais l'Afghanistan n'est pas un pays en guerre, madame. Révisez votre droit international.
Je suis fière de garantir le droit d'asile qui est garanti en droit international. Et ce droit d'asile, vous voyez, monsieur Bardella,
Manon Aubry,
Manon Aubry, juste en disant, dans l'affaire de Châteauroux,
où Matisse a été assassiné par une famille de réfugiés afghans. Quelle est la plus-value pour nous d'accueillir des réfugiés afghans dans ces conditions?
Donc, pour vous, vous voulez cesser d'accueillir qui que ce soit, y compris quand ils fuient les guerres, quand ils rentrent dans les cadres du droit international.
Quand ils menacent la sécurité de mes concitoyens, oui, madame. Ça s'appelle le principe de précaution.
Vous savez, pour garantir la sécurité de nos concitoyens, il y a tous les outils pour lutter justement et pour protéger la sécurité de nos concitoyens.
Oui. Manon Aubry,
l'opprobre sur tous nos concitoyens de confession musulmane ou d'origine étrangère, vous voyez, c'est insupportable. Monsieur Bardella. Et avec les Bardella, avec les Bardella au pouvoir, il n'y aurait pas eu de Bardella aujourd'hui en France. Vous devriez vous en souvenir.
S'il vous plaît, une question pour Marion Maréchal de Reconquête. Vous êtes pour la remigration, c'est peut-être la différence avec votre voisin Jordan Bardella, pour l'expulsion des étrangers fichés S, des délinquants et criminels.
C'est aussi pour l'expulsion des délinquants
et des chômeurs. Et donc,
alors, monsieur Bardella, vous êtes aussi pour la remigration, ça c'est quelque chose que vous assumez?
Sur la solidarité nationale.
Alors, pour expliquer la remigration, c'est le principe.
Très simplement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de profils de personnes de nationalité étrangère qui sont sur le sol français et qui, selon moi, n'ont rien à y faire. Donc, en effet, les fichiers S pour islamisme, les délinquants étrangers qui peuplent beaucoup trop de nos prisons. Je rappelle qu'à Nice, c'est 60%
est-ce que vous êtes pour la remigration
des personnes qui sont dans cette prison
est en train de le mettre en place la Grande-Bretagne.
Qui sont de nationalité étrangère. Et en effet, les chômeurs de longue durée qui ne subviennent pas à leurs besoins et qui donc pèsent sur la solidarité nationale française et sur le poids des Français.
Ça
me paraît être une logique de. Une politique.
Y compris le terme de remigration.
Pour que les choses soient claires. La politique défend ses mesures, donc je ne vais pas vous dire le contraire.
Non, pour que tout le monde comprenne bien. La remigration.
Et les clandestins, évidemment, les personnes en situation.
Vous êtes, Marion Maréchal, pour la remigration. C'est-à-dire ce que fait, par exemple, la Grande-Bretagne aujourd'hui, renvoyer indifféremment, quelles que soient les nationalités, des étrangers vers le Rwanda.
Des clandestins, oui. Ça, c'est sûr. Et je suis même, je vais vous le dire, contre le principe.
Vers un pays dont ils ne sont pas originaires.
Contre le principe de toute régularisation d'une personne arrivée clandestinement sur le sol français. Et c'est là peut-être d'ailleurs une différence avec M. Bardella et moi. Puisque, en l'occurrence, eux ont voté le texte défendu par les macronistes à l'Assemblée qui aboutit à l'augmentation.
Qui durcit la circulaire.
Alors, pour bien comprendre.
Qui augmente le nombre de régularisations des clandestins sur le sol français. Soutenu d'ailleurs également par les Républicains.
Mais M. Bardella, vous êtes donc aussi pour ce système anglais aujourd'hui de renvoyer.
Non, mais moi, monsieur, je suis pour le renvoi de toutes les personnes qui n'ont rien à faire chez nous, c'est-à-dire les délinquants et criminels étrangers.
Et y compris dans des pays dont ils ne sont pas originaires.
C'est-à-dire les islamistes étrangers. Oh bah oui, écoutez, un islamiste qui menace la sécurité nationale qui est sur le sol français, si vous voulez, ce qui peut lui arriver dans son pays d'origine, à la rigueur, c'est pas mon sujet. Moi, ce qui m'importe, c'est la sécurité de mes concitoyens. Le Rassemblement national est aujourd'hui donné en tête des élections européennes. Il peut gagner la prochaine présidentielle. Par conséquent, le mouvement politique qui peut aujourd'hui agir sur la question de l'immigration concrètement, c'est évidemment le mien.
Les temps de parole, attention, nous approchons de la fin de ce débat. Les écarts se sont creusés aux alentours d'une dizaine de minutes, 11 minutes. François-Xavier Bellamy, Raphaël Glucksmann, Marion Maréchal, Marie Toussaint et Manon Aubry, ainsi que Valérie Ayer. En fait, c'est Jordan Bardella, toujours en avance. On va corriger ça dans la dernière partie. Nous allons effectivement poursuivre ce grand débat des Européennes avec une question. Sommes-nous trop naïfs face à la Chine et face aux États-Unis? À tout de suite.
Suite du grand jury spécial élections européennes avec Olivier Bost.
Dernière partie de ce grand jury exceptionnel avec Anaïs Bouton de Paris Première à mes côtés. Bonjour, nous allons débattre de la guerre commerciale.
Ah oui, bonjour à tous. Alors, l'Union européenne, c'est la troisième économie du monde, mais c'est aussi, par exemple, près de 300 milliards de déficit avec la Chine en 2023. Alors, ça tombe bien, le numéro 1 chinois Xi Jinping arrive cet après-midi en France pour une visite d'État. Sa stratégie économique, c'est quand même basée sur des exportations massives à prix cassé. Vous êtes l'Europe. Que lui dites-vous à monsieur Xi Jinping, Raphaël Glucksmann?
Que le temps de la naïveté est révolu. Que le temps de la faiblesse et de l'impuissance est révolu. Moi, je vais vous parler d'une entreprise française qui s'appelle Systovi, qui produisait des panneaux photovoltaïques.
À Carquefou.
À Carquefou, à côté de Nantes. Et cette entreprise, elle vient de fermer. C'était une entreprise florissante qui vient de fermer. Pourquoi? Parce que les dirigeants chinois ont cassé les prix et ont divisé par 4 les prix des panneaux photovoltaïques chinois. Et que donc cette entreprise a dû mettre la clé sous la porte, comme tous les champions européens du photovoltaïque. Et pourquoi? Parce qu'ils font face à une concurrence déloyale de la Chine, une concurrence qui repose sur l'esclavage des Ouïghours, dans la production de polysilicium, qui repose sur des subventions massives, sur des ventes à perte. Et nous, nous avons fait preuve en Europe d'une naïveté sans nom. Donc il faut un protectionnisme écologique aux frontières de l'Union européenne. Il faut surtaxer ces produits chinois. Il faut bloquer les produits de l'esclavage. Il faut arrêter d'être faible et naïf. Et moi, là, ce que je vois, c'est que le premier chinois, Xi Jinping, va venir en France, qu'on va lui dérouler le tapis rouge, qu'on va l'amener dans les Pyrénées pour visiter le village familial, et que donc on va reproduire éternellement les mêmes erreurs, qui est d'installer une relation d'amitié avec celui qui, je le rappelle, Xi Jinping, est le principal sponsor de la guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine, qui a signé un traité d'amitié sans limite avec la Russie poutinienne et qui détruit méthodiquement nos productions en Europe. Xi Jinping, il ne fait pas que déporter un peuple, le peuple ouïghour, dans des camps de concentration. Il est l'agent de l'éradication de notre industrie. Et donc, le recevoir avec tant d'honneur, Madame Maillet, comment pouvez-vous justifier l'attitude du président français de l'amener dans la maison de l'enfance, dans les Pyrénées, de rejouer avec Xi Jinping les erreurs qu'il a faites avec Poutine en l'invitant à Brégançon et en allant au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg? Il faut désormais parler le langage de la fermeté.
Valérie.
Il faut protéger à la fois nos principes et nos intérêts, ou sinon nous serons éradiqué.
Valérie, répondez à Raphaël Glucksmann.
Bah écoutez, le président de la République, il est dans son rôle. On connaît aujourd'hui les relations avec la Chine. On a besoin aussi de la Chine sur un certain nombre de sujets. La lutte contre le changement climatique, le fait de s'assurer qu'il n'y ait pas de contournement aux sanctions contre la Russie. Mais ça n'empêche pas, mais monsieur Glucksmann, ça n'empêche pas un discours de fermeté sur les droits humains.
Je vais vous donner un exemple.
On sait être ferme. Nous l'avons fait, le président de la République l'a fait. Il y a quelques années, quand la présidente de la Commission européenne a voulu signer un contrat d'investissement stratégique avec la Chine, nous y sommes opposés.
Le président de la République, c'est incrusté. Madame Maillet,
Laissez-la terminer, s'il vous plaît, Raphaël Glucksmann. Laissez parler les dames.
Un dialogue diplomatique.
Alors, je dois répondre après.
Ce qui n'empêche pas d'avoir, évidemment, un discours de ferme. Je donne cet exemple sur l'accord d'investissement. Nous nous sommes opposés au Parlement européen, vous vous êtes aussi opposés, et le président de la République s'y est opposé, ce qui a fait que cet accord n'a pas été signé. Ensuite, s'agissant de la naïveté, de manière générale, oui, l'Europe a été trop longtemps bien trop naïve. Quand on laisse les Chinois acheter le port du Pirée en Grèce, quand on laisse les Chinois inonder nos marchés européens avec des produits sursubventionnés, des voitures électriques, les panneaux
photovoltaïques,
vous
êtes dans l'opposition, non ?
Non, mais ça faisait 30 ans que c'était comme ça. Depuis, sur ce mandat-là.
Ça fait 10 que vous êtes au pouvoir.
Pardonnez-moi, mais alors moi j'ai travaillé sur ce mandat-là. Et qu'est-ce qu'on a fait sur ce mandat-là ? On a mis en place l'obligation de réciprocité sur l'accès aux marchés publics. On a mis en place également on a demandé à la Commission européenne d'engager des enquêtes
Raphaël Glucksmann répondre.
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Europe est en train de regarder. On attend la confirmation parce qu'on respecte le droit international. On attend la confirmation que on n'a pas trop de doutes par rapport à ça, mais que la Chine sursubventionne ses voitures électriques, ses panneaux photovoltaïques.
On va y arriver.
Alors,
merci Valérie.
Raphaël Glucksmann,
la réponse, s'il vous plaît,
et de mettre en place le fameux Frontex sanitaire environnemental.
Vous avez mentionné l'accord d'investissement avec la Chine. Monsieur Macron a tellement poussé pour cet accord d'investissement qu'il s'est incrusté dans une conférence de presse avec Madame Merkel et le premier chinois Xi Jinping, alors qu'il n'y était même pas invité pour célébrer cet accord d'investissement.
Et pourquoi il n'a pas été signé?
Parce qu'au Parlement européen, nous nous sommes mobilisés.
Oui, parce
et pourquoi? Parce que j'ai été moi-même sanctionné par le régime chinois, et c'était ça la raison qui nous a poussé à conquérir cette majorité. Madame Hayé, Monsieur Macron était pour cet accord d'investissement, il l'a célébré publiquement. Cet accord d'investissement, il aurait conduit à quoi?
Cet accord
d'investissement,
à délocaliser encore plus nos productions, à faire en sorte que nos multinationales délocalisent encore plus nos productions en Chine.
Mettez un point au bout de cette phrase, Raphaël Glucksmann.
La naïveté, et cela continue aujourd'hui, Madame Hayé.
On a l'impression sur ce plateau que tout le monde fait le même constat quand même, qu'il y a une belle et folle unanimité.
Il y a des gens qui ont été au pouvoir quand même.
Qui est que il faut sortir d'une certaine forme de naïveté. Comment on fait, François-Xavier Bellamy ?
Alors, ça fait longtemps que je le dis et que j'alerte sur ce qui constitue aujourd'hui une stratégie de destruction de l'économie européenne. La Chine, et Xi Jinping l'a annoncé clairement, a engagé une stratégie de surproduction massive avec pour but de dévaster notre industrie. Et moi, j'alerte sur le sujet depuis longtemps et j'apprends hier par des journalistes de Libération que j'ai fait l'objet d'une tentative de piratage des services chinois. Je crois qu'il faudra pousser cette question plus loin parce que nous voyons bien à quel point ceux qui se sont opposés à la Chine aujourd'hui subissent des mesures de rétorsion. Nous avons le devoir de sortir de cette naïveté. Et encore une fois, la naïveté, je la vois aussi dans des décisions, on en a déjà parlé, comme celle qui consistait à imposer 100% de véhicules électriques en 2035, parce que ce choix-là, ce choix technologique, il consiste à prendre pour cap la norme sur laquelle les Chinois ont 10 ans d'avance sur nous. Il faudra évidemment revenir dessus, nous nous y sommes opposés, mais ce cadeau à Xi Jinping, il a été fait pas par personne, il a été fait malheureusement par les socialistes, par les macronistes et par les verts. C'est évidemment une folie environnementale, mais c'est aussi une aberration géopolitique, industrielle et sociale. On voit ce qui s'est passé sur les panneaux solaires, on voit ce qui s'est passé sur les éoliennes. Demain, c'est la voiture, si on n'y prend pas garde. Et quand je dis demain, c'est déjà aujourd'hui.
Donc, François-Xavier Bellamy, vous êtes pour une forme de protectionnisme. Vous n'êtes pas opposé à du protectionnisme.
Moi, je pense qu'il faut imposer une concurrence équitable à ce qui est chez nous. Ça veut dire, par exemple, prenons une chose toute simple. Dans les accords de l'OMC, lorsque la Chine est rentrée dans l'OMC, ce qui était une erreur historique, il était prévu qu'elle adopte des libertés fondamentales, comme par exemple la liberté syndicale. Eh bien, exigeons de la Chine qu'elle mette en œuvre la liberté syndicale. On a le devoir de recréer aujourd'hui avec notre marché une forme de bras de fer avec la Chine pour qu'elle sorte du charbon, pour qu'elle retrouve ses droits fondamentaux. Et ça, c'est un défi majeur. Mais le point important, et ça, pour le coup, je pense que personne ne le dira, en tous les cas, malheureusement, je suis frappé de voir que la majorité actuelle au pouvoir n'en a pas conscience. Le point important, c'est que cette concurrence loyale, on ne la produira pas seulement en exportant de la contrainte vers la Chine. On la produira aussi en libérant nos entreprises, en libérant notre activité économique. Parce qu'on ne peut pas imposer toujours plus de normes, de contraintes, de charges, de fiscalité. Et ce que propose Emmanuel Macron aujourd'hui dans son discours de la Sorbonne, c'est de continuer toujours en Europe ce qui a déjà fait la preuve de sa faillite en France. C'est-à-dire plus de dettes, plus d'emprunts européens, plus d'impôts et des impôts européens. Et nous disons que cette folie-là, elle conduira à continuer de nous tirer des balles dans le pied dans cette concurrence avec une industrie chinoise qui, elle, sait affirmer, évidemment.
François-Xavier Bellamy pour Les Républicains.
Marie Toussaint, est-ce que vous êtes pour un Buy European Act ?
Bah évidemment, et je l'ai d'ailleurs souligné tout à l'heure, mais je voudrais commencer par une chose, dire que les écologistes forment la seule famille politique qui ont été constants, cohérents dans la volonté de voir une Union européenne forte et indépendante des pays étrangers et des pouvoirs étrangers. Nous n'avons, comme l'extrême droite, aucune fascination pour les régimes dictatoriaux comme celui de Vladimir Poutine ou celui de Bachar el-Assad. Nous n'avons jamais été mangés dans la main de Vladimir Poutine et de Gazprom comme François Fillon ou comme Gérard Schröder. Nous avons toujours lutter contre les dictatures, soient-elles de droite ou de gauche.
La question, c'est de se lancer dans une guerre commerciale avec la Chine. Est-ce que vous
êtes favorable? Si je peux me permettre, c'est pas tout à fait la bonne question de savoir est-ce que on tient dans la guerre commerciale. La question, c'est est-ce que nous répondons aux besoins des Européennes et des Européens? Et la réponse est simple. Il faut produire en Europe ce dont l'Europe a besoin. Et on a bien vu comment nous avons perdu notre industrie de la sidérurgie. Nous avons perdu 50% des emplois dans le textile alors qu'on en a besoin. Nous avons aussi perdu notre industrie du médicament.
Vos solutions.
60 à 80% des substances.
Et vos solutions sur ces sujets-là.
De l'Inde ou de Chine. Eh bien, nous voulons transformer l'économie. Nous voulons effectivement un Buy Green and European Act.
Alors,
une commande publique.
Alors,
au
voilà. En français, c'est parce que oui, en français, c'est une préférence européenne pour les marchés publics. Exactement. Qui représente quand même entre 10 et 15%
du PIB. 15% du PIB, 10% énorme. Notre empreinte carbone. Et donc, ça permet effectivement de changer la vie. J'en ai parlé tout à l'heure, une TVA verte pour soutenir à la fois les entreprises qui font du bien, il y en a beaucoup, et puis les populations à préserver leur pouvoir d'achat. Et puis, évidemment, la sortie du libre-échange et un protectionnisme vert. Et je veux souligner aussi le fait que le libre-échange, ça bénéficie à Lactalis plutôt qu'aux paysans. Et donc, en fait, cette injustice
sortir
profonde,
du libre-échange, c'est-à-dire plus aucun accord de libre-échange.
Ça veut dire qu'on passe des accords de libre-échange qui sont terribles, a fortiori quand ils sont soumis à des tribunaux d'arbitrage privés. Ça veut dire qu'on délègue notre pouvoir démocratique.
Donc, la jungle.
À des accords de juste échange. De juste échange. Et donc, ça veut dire que oui, on étend la taxe carbone aux frontières. Vous savez, il y a 50% de l'industrie qui n'est pas concernée. Donc, on peut l'étendre. On l'étend aussi aux produits toxiques. Ces pesticides que nous continuons à produire ici, alors que nous les trouvons trop dangereux pour nous et que nous exportons, et vice-versa, puisqu'ils nous reviennent à travers nos importations agricoles. Et nous mettons comme objectif de protéger les paysannes et les paysans, mais aussi de créer un service public du médicament, parce que nous avons besoin de produire en Europe ce dont les Européennes et les Européens ont besoin, des médicaments génériques et essentiels. Nous en avons besoin, c'est absolument indispensable pour notre santé et lutter contre les pénuries.
Pour vous, c'est pas les entreprises.
Mais je terminerai en disant aussi que nous devons lutter contre toutes les nouvelles dépendances. Ça veut dire aussi contre la dépendance en provenance de Chine, hein, disent ceux qui ont piloté l'Europe pendant qu'elle se mettait entre les mains de la Chine.
Donc nous devons
lutter contre ces dépendances-là. D'accord. Et ce que cela veut dire, ça veut dire aussi que nous devons avoir des services publics européens, y compris pendant le temps où nous devons relancer l'industrie.
Marie Toussaint, merci. Comment on se lance dans une bataille commerciale avec la Chine, Manon Aubry, pour la France Insoumise, sans voir notre pouvoir d'achat rogné, les prix augmenter?
Vous avez raison, mais s'il y a une guerre commerciale qui est menée, c'est d'abord une guerre du libre-échange contre nos agriculteurs, contre nos producteurs, contre les travailleurs. Et la situation dans laquelle ça nous mène, ça c'est le constat de départ, c'est qu'on est incapable de produire ce dont on a besoin. Quand on a 80% des principes actifs de médicaments qui sont produits en dehors de l'Union européenne, la conséquence, c'est des pénuries pour des choses aussi simples et concrètes que le Doliprane. Quand on a des accords de libre-échange qui sont signés à tour de bras, ce sont nos agriculteurs qui n'arrivent plus à vendre leur lait ici. Quand on a 97% des panneaux solaires qui sont produits en dehors de l'Union européenne. Il était question tout à l'heure de Systovi, mais il y a une autre entreprise française, il n'y en a que deux en France qui est en difficulté, qui s'appelle Photowatt, qui est à Bourgoin-Jallieu. Donc, l'Union européenne a organisé sa propre vulnérabilité. C'est ça qui me met hors de moi, parce que ces traités de libre-échange, c'est en fait une triple folie.
Mais ce n'est pas à travers les accords de libre-échange que les panneaux
notamment,
solaires ont été détruits.
On a organisé notre vulnérabilité globale, et c'est la conséquence d'une politique de désindustrialisation de ces dernières dizaines d'années. Et ces accords de libre-échange, ce sont une triple folie. C'est d'abord une folie sanitaire, parce qu'on va faire venir des produits en Europe qui ont été faits avec des pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne. C'est une folie sociale parce qu'on va mettre nos producteurs, nos agriculteurs face à une concurrence déloyale. Et c'est aussi une folie environnementale parce qu'on va faire venir de l'autre bout de la planète, par exemple du lait de la Nouvelle-Zélande qui est à 20 000 km d'ici. Moi, ce que je propose, c'est un plan de relocalisation industrielle pour suivre un principe simple, produire en France et en Europe ce dont nous avons besoin. Et ça suppose, oui, de mettre fin aux accords de libre-échange. Et là, pardon, je vous ai tous entendus, mais quelle bande d'hypocrites! Tous là, tous les groupes politiques ici votent les accords de libre-échange.
Je préside le seul
groupe, entendez-vous bien, le seul groupe au Parlement européen qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange. Tous les groupes de l'extrême droite jusqu'à l'autre bord de l'échiquier politique, vous les avez tous votés. Donc maintenant, au bout d'un moment, pour moi, ça suffit l'hypocrisie. Si on veut produire en France, il faut arrêter d'organiser notre vulnérabilité. Et si on veut être cohérent le 9 juin,
Manon,
il faut voter pour
Aubry.
Ceux qui ne donne pas de voix.
Merci Manon Aubry.
Alors, Marion Maréchal, comment on lutte contre la Chine? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Parce qu'on voit qu'en fait, à chaque fois qu'on essaye des choses, l'Allemagne se désolidarise. Est-ce que le problème, c'est pas aussi l'union à l'intérieur de l'union?
Alors, vous savez, pour mener une guerre commerciale, déjà, il faut des soldats. Et nos soldats, ils sont bien mal en point. Il suffit d'aller dans les tribunaux de commerce pour voir l'hécatombe à l'œuvre, hein, puisque nous avons un record de défaillance d'entreprises qui n'arrivent plus à payer leurs factures d'énergie. Et donc là, évidemment, se pose le sujet dont on a parlé tout à l'heure, hein, notamment sur le fonctionnement actuel du marché et le fait de créer artificiellement un marché en obligeant EDF à vendre une partie de sa production aux concurrents. Mais aussi, on pourrait interroger les 30% de taxes aujourd'hui prélevées par l'État sur les factures d'électricité. On doit aussi interroger, et ça, c'est soutenu par l'ensemble de la gauche, d'où qu'elle vienne en général, l'enfer fiscal et l'enferme normatif aujourd'hui qui pèse sur nos entreprises. Je vous donne deux exemples. Une entreprise qui est un fleuron dans les semi-conducteurs, hein, donc entreprise stratégique, s'appelle Soitec, et qui envisage de partir de la France parce qu'il n'arrive pas à pouvoir s'étendre physiquement en raison de contraintes aujourd'hui trop fortes. Je pense à Duralex, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est en train de mourir parce qu'il est obligé de payer une taxe sur la pollution à laquelle il n'arrive pas à faire face.
Les coûts d'énergie aussi,
Madame Maréchal. Mais aussi, les deux sont liés, mais aussi les taxes sur la pollution que vous soutenez d'ailleurs.
Vous
l'assumez sur ce type de taxes contraignantes à vocation soi-disant écologique. Clair. Et donc, ces entreprises vont être amenées à partir et donc augmenteront les importations. Donc, oui, il faut s'occuper de ces sujets-là. Il faut évidemment poser la question de la concurrence déloyale, des traités, évidemment, de libre-échange, mais aussi de la nature des droits de douane que nous posons, pas assez, évidemment, exigeantes. On pourrait parler de l'exemple de la voiture électrique. François-Xavier Bellamy l'a rappelé, il n'y a pas de traité de libre-échange avec la Chine. En revanche, les États-Unis, eux, ils mettent 27% de droits de douane sur les voitures électriques chinoises, quand l'Union européenne en met 10%.
vous ne craignez pas des rétorsions chinoises
si elles existent déjà, les rétorsions.
De toute façon, évidemment. Maintenant, il y a aussi évidemment la question de faciliter les aides d'État, que ne défend pas d'ailleurs Emmanuel Macron, la préférence communautaire dans les marchés publics. Et j'en finirai par un sujet dont on parle très peu. Vous savez, Airbus, qui est quand même l'exemple type d'un projet européen extraordinaire, qui est le résultat dans les années 70 de la volonté exclusive d'ailleurs de l'État français et de l'État allemand. Eh bien, si aujourd'hui on voulait créer un Airbus, eh bien la Commission mettrait son droit de veto, parce que la Commission ne permettrait pas qu'un avionneur détienne plus de 50% du marché européen. Et donc, voyez-vous, il y a là aussi la question de pouvoir créer ces champions et donc de revoir aujourd'hui la politique la concurrence de la Commission.
Je vous propose de prendre 30 secondes à chacun pour conclure sur ce sujet, précisément de la guerre commerciale, avec Jordan Bardella, si vous voulez, parce que vous êtes en avance sur
les échanges commerciaux.
Non, sur les échanges commerciaux, s'il vous plaît.
Moi, je me réjouis de voir que les gens qui ont construit aujourd'hui une Europe basée sur le libre-échange le plus dérégulé nous expliquent qu'il faut faire machine arrière. On est encerclé par des grandes puissances dans la mondialisation qui font plus de protectionnisme intelligent sur leurs intérêts et qui soutiennent massivement leur industrie. Ça a été rappelé sur les droits de douane aux États-Unis, 27% sur les voitures chinoises, c'est 10% en Europe. Donc il faut sortir de la naïveté à ce sujet.
Taxer les États-Unis financent aussi un plan, l'Inflation Act, 400 milliards de dollars. L'Europe, est-ce que l'Europe peut faire
ça? Je vais terminer.
Ouais.
Taxer lorsqu'on est mis en concurrence. Toutes les grandes puissances qui réussissent dans la mondialisation le font. Deuxièmement, il faut soutenir notre industrie par une fiscalité de croissance. C'est la baisse des impôts de production, mais c'est aussi la priorité nationale et la préférence européenne dans le cadre de la commande publique. Moi, je souhaite mettre le paquet sur l'énergie. Aujourd'hui, la hausse de 45% des tarifs de l'énergie depuis 2017 est un frein à la compétitivité de nos entreprises, un frein à la réindustrialisation et un coup de canif porté
merci
au pouvoir d'achat
beaucoup
des Français. Donc,
merci
tout mettre
beaucoup
sur le nucléaire et deuxièmement, retrouver un prix français de l'électricité.
Merci beaucoup,
aujourd'hui,
Jordan
le prix
Bardella
de l'électricité en France est adossé sur les prix du gaz. Je souhaite sortir de ces règles
stop,
de tarification.
Merci
beaucoup, mais j'aimerais Jordan quand même Bardella peut-être aller au bout pour rendre cet avantage.
Vous allez avoir encore l'occasion de vous exprimer
à la France.
Raphaël Glucksmann.
Vous savez, j'ai lutté pour
le Parti Socialiste et Place Publique.
J'ai lutté pendant tout mon mandat pour un instrument de bannissement des produits de l'esclavage de nos marchés. On a mobilisé des centaines de milliers de jeunes Français pour dénoncer la réduction des Ouïghours en esclavage sur les chaînes de valeur des multinationales. Cet instrument de bannissement des produits de l'esclavage, qui touche notamment le photovoltaïque, puisque les Ouïghours sont réduits en esclavage dans la production du polysilicium, eh bien cet instrument de bannissement des produits de l'esclavage, vous n'avez pas été capable au Rassemblement National de voter pour.
Parce que ça c'est protégeait toujours plus de normes et de contraintes
mais
pour
nos TPE,
PME.
Mais c'est des normes imposées aux produits chinois qui sont en train de tuer nos producteurs.
Vous parlez de quoi? De la CSRD,
s'il
vous plaît, voire de vigilance. Mais,
voilà.
Raphaël Glucksmann.
À nouveau, nous confondons tout.
Il vous plaît, on n'entend plus rien. Raphaël Glucksmann.
L'esclavage n'a rien à voir avec les autres textes.
Ben voyons.
C'est des normes qui sont imposées aux produits importés. Monsieur Bardella, qui viennent de Chine, mais pour une fois, lisez les textes que vous votez. Arrêtez de passer votre temps sur TikTok. Là, c'était
toujours
quelque chose
de normes et de c'était contraintes, mais non, monsieur.
S'il vous plaît, stop.
Allez confronter
stop,
ce
Jordan
que vous
Bardella
exigez à des chefs d'entreprise. Allez confronter ce que
vous exigez à des chefs
d'entreprise. C'est toujours plus de contraintes.
Monsieur Bardella, cet instrument
alors,
de bannissement des produits d'esclavage n'imposait aucune norme à nos producteurs.
Raphaël Glucksmann.
Elle protégeait cet instrument.
On va passer.
Nos producteurs.
Attention, vous êtes en train de mordre sur votre temps de parole,
monsieur
tous les deux là.
Alors,
on va passer aux conclusions, s'il vous plaît.
Là, vous vous trompez parce que vous n'avez
pas.
Ce n'est pas vrai, monsieur Glucksmann, et vous le savez pertinemment.
Alors, étant donné que.
Et j'espère que les gens iront vérifier. C'est un
instrument. Alors, comme vous repartez.
Attention, vous allez plus avoir de temps.
S'il vous plaît. Comme vous avez. Vous vous réinterpellez entre vous, on va passer maintenant au temps de la conclusion.
Donc, on n'a pas tous 30 secondes, s'il vous plaît.
Eh non, parce que on va pas y arriver, parce que vous parlez tous beaucoup trop et que vous avez été globalement tous indisciplinés. Le temps de la conclusion est donc d'abord pour Marion Maréchal avec une question extrêmement simple. Vous avez un peu plus de 2 minutes pour vous exprimer. Les autres, on fera en fonction du temps que vous avez utilisé sur ce débat. Ça sera globalement approximativement la même chose. Marion Maréchal, donc un peu plus de 2 minutes pour nous dire tout simplement qu'est-ce que vous avez oublié de nous dire dans ce débat.
Oui, mais écoutez, Emmanuel Macron a dit il y a quelques jours qu'il y avait une menace existentielle qui pesait sur l'Union européenne. Et lui, il considère que cette menace existentielle, c'est le populisme. Eh bien, voilà une grande différence avec moi, puisque moi je considère que la menace existentielle qui aujourd'hui plane sur la France et l'Europe, c'est à la fois évidemment l'immigration de masse et l'islamisation du continent. Et pour lutter contre ce défi vital, historique. Les élections européennes sont évidemment un rendez-vous extrêmement important. Et donc, le 9 juin, les gens ont le choix entre ceux qui gouvernent actuellement l'Union européenne et qui votent 80% des textes ensemble derrière Ursula von der Leyen, ceux comme au Rassemblement national qui n'ont pas les moyens d'agir parce qu'ils font partie d'un groupe très isolé qui n'ont pas d'influence aujourd'hui sur les institutions, ou bien ils peuvent choisir Reconquête et ses alliés européens qui peuvent non seulement changer la majorité, sortir Ursula von der Leyen et donc faire concrètement appliquer tout ce que nous avons défendu dans ce débat. Et donc ce que j'ai à dire simplement, c'est que tous ces électeurs qui souhaitent demain voir une Union européenne qui lutte contre l'immigration, qui lutte contre l'islamisation, qui lutte contre le fanatisme vert, la décroissance agricole et industrielle dont on a parlé, et qui lutte aussi contre la vision du super État fédéral voulu par Emmanuel Macron et ses alliés, eh bien ils vont choisir, ils devraient choisir le bon bulletin et donc se tourner vers notre liste Reconquête.
Raphaël Glucksmann, même question, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez oublié de dire dans ce débat ?
Beaucoup de choses, mais pour conclure, je voudrais ici évoquer Mathias Ecke. Mathias, c'est un ami, c'est mon ami, c'est aussi notre collègue au Parlement européen, député social-démocrate. Et Mathias vient de se faire sauvagement agresser vendredi, alors qu'il collait des affiches à Dresde pour la campagne électorale. Sauvagement agressé par un groupe de fascistes qui l'ont laissé gisant dans son sang. Il souffre de multiples fractures et il est en ce moment à l'hôpital. Déjà, je veux lui adresser mon soutien et ma solidarité, mais je veux aussi dire que son agression est le symptôme d'une brutalisation du débat public, le symptôme de la libération de la haine et de la violence partout en Europe en ce moment. Et si nous ne nous réveillons pas, eh bien, nous allons sombrer. Et nous, notre campagne, on l'a conçue comme un antidote à cette brutalisation du débat public. Nous faisons campagne sur l'Europe, qui est le sujet de ces élections, en portant des idées ambitieuses et un projet ambitieux. Et le 9 juin, il faut montrer que nous sommes des millions de Françaises et de Français qui sont attachés à un débat public sain, à la démocratie, aux principes humanistes, féministes, écologistes, qui font tenir ensemble nos sociétés. Le 9 juin, nous devons montrer que nous ne céderons rien à la vague
Raphaël
qui est en train de
Glucksmann.
Se